Alors, si vous voulez, nous allons commencer immédiatement. Alors, j'avais prévu pour ces deux cours cette semaine que nous ayons deux exemples des personnages qui accompagnent le récit de l'histoire des patriarches. Je ne vous rappelle pas le plan général, mais enfin, si c'est nécessaire, vous me demanderez. Et j'ai choisi, pour commencer, je vous ai donné un certain nombre de références à préparer, le personnage de Lot, qui accompagne l'histoire d'Abraham à partir du commencement, mais assez rapidement ils se séparent, et nous verrons comment définir la distinction de ces deux profils d'identité qui procèdent de la même matrice d'identité. Je vous rappelle très brièvement, il s'agit d'une famille des Hébreux descendants de Héver, descendants de Shem. Nous avons vu toutes les définitions de l'identité Héver la semaine dernière, l'ancêtre d'Abraham, et rescapé de la civilisation de la Mésopotamie, d'Ur Kasdim dans le vocabulaire biblique, et qui quitte Ur Kasdim pour rentrer dans le pays du Canaan. Et Lot est le neveu d'Abraham, il est au point de départ de la même identité, des Hébreux devenus Araméens. Et les différents personnages de la famille d'Abraham, dont la Torah nous raconte l'histoire, encore une fois, dès le début, très parallèle à l'histoire d'Abraham, mais qui divergent, sont restés araméens, chacun à leur manière. Et je crois que cette étude est très importante parce qu'elle nous montre les différentes étapes d'échec d'une visée de la même identité, l'hébreu cherchant à émerger de son écorce. Je réemploie le terme qu'emploient les Midrashim de la Kabbalah, la Klipa. L'écorce de protection d'identité dans l'exil, l'hébreu s'enveloppe d'une carapace de protection, qui est une clipa dans le terme du Midrash, et qui est la clipa Aram. Pour que l'identité hébraïque émerge du dedans de cette identité provisoire nécessaire, si j'ose dire, Aram, eh bien, il y a tout un effort et différentes formes de l'impasse d'identité ou de l'échec d'identité sont évacuées dans l'effort d'engendrement des trois générations Abraham, Isaac, Jacob. Alors, la première génération, l'aspect Aram, se sépare d'Abraham, un des aspects Aram se sépare d'Abraham, et c'est Lot. Nous serons occupés à cette étude ce matin. À la deuxième génération, c'est Ishmaël qui se sépare d'Itsraël. J'espère que nous aurons le temps de voir quelques coups de projecteur sur cette histoire demain. Ça aurait dû peut-être faire l'objet en gros plan de cette étude, étant donné l'urgence du problème. Peut-être je commencerai déjà aujourd'hui, si nous en avons le temps. À la troisième génération, c'est Ésaü qui se sépare de Jacob. Mais l'identité Aram s'érige en adversaire résolu de Jacob dans le personnage de Laban, qui, je vous le rappelle, est appelé par le texte Laban Aharami, Laban l'Araméen, de façon extrêmement précise. Je vous indique en tout cas à l'avance que, je vais vous donner une référence, que c'est au moment de la naissance de l'enfant attendu par Isaac et Rebecca que cette difficulté de l'être Aram est indiquée dans le texte. Cet enfant, qui aurait dû être d'emblée, a priori, si l'enfantement avait été aisé, facile, sans les difficultés d'obstacles que je vais vous rappeler très succinctement, aurait été d'emblée Israël. C'est-à-dire première génération Abraham, deuxième génération Isaac, troisième génération Israël. C'est l'identité d'Israël qui, en fin de compte, se cherche dans le troisième effort de sélection d'identité. Or, on enseigne dans le Midrash. Je vous donne tout de suite la référence au début de la paracha de Toldot. Vous l'avez au chapitre 23, il me semble, je vais dire ça tout de suite. 25, pardon. Voilà, verset 19 du chapitre 25. Cet enfant risque d'être littéralement monstrueux. Un impossible absolu, parce que d'un certain côté, il a l'hérédité Aram la plus totale par sa mère Rivka. D'un autre côté, il est l'hébreu prêt à être engendré, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Alors, en tant que fils des pères, Abraham, Isaac, il pouvait s'agir immédiatement d'Israël, mais le texte nous montre que par l'hérédité de sa mère, Rivka, qui est la seule possibilité de matrice d'engendrement encore à ce niveau de la troisième génération, ça nous l'avons étudié d'autre part, tant que l'identité Israël n'est pas encore constituée, il est impossible de rechercher une matrice d'identité ni dans la civilisation chasdéenne que l'on a quittée, ni dans la civilisation cananéenne que l'on doit remplacer. Quand l'identité Israël est engendrée, alors le mariage est possible. C'est deux périodes radicalement différentes pour ce problème, avec qui trouver femme pour la suite des engendrements. La période des pères, Abraham, Isaac, Jacob, et la période des fils. Lorsque l'identité d'Israël est là, alors Ruth peut venir, Sipora, la femme de Moïse, peut venir. On peut contracter mariage avec qui que ce soit de l'identité extérieure, déjà apte à devenir hébreu. Mais il faut que l'identité hébreu soit déjà là. Je veux dire qu'il y a une règle différente pour ce problème. À l'époque des pères, des Avot, interdiction absolue de chercher une matrice d'engendrement pour la suite de l'enfantement ailleurs que dans la famille d'Abraham. Ni dans la civilisation que l'on a quittée, ni dans celle que l'on doit remplacer. Parce que sinon, c'est la perte de toute chance, de tout espoir de salut pour l'humanité. Il y aurait une identité mélange monstrueuse qui ne serait ni Israël ni les nations. Est-ce que c'est clair? Et donc, voilà qu'on arrive à la troisième génération, Abraham, Isaac, c'est Israël qui doit naître. Or, cette identité Israël est très difficile à enfanter. Nous allons commencer par ce texte. D'ailleurs, je reviendrai à l'autre si on a le temps. Par la lignée Abraham-Isaac, il s'agit d'un tzaddik absolu qui va naître. Mais par la lignée de l'hérédité portée par sa mère Rivka, il porte l'hérédité araméenne plus. Nous allons voir ça dans le texte. Vous avez vos livres sous les yeux? Okay. D'où blocage absolu. Déjà, pour que l'enfant de Sarah naisse, c'était très difficile. Il fallait que Sarah, en tant que matrice d'enfantement, arrive à un niveau de maturité, maturation tel qu'on ne risque pas d'avoir une approximation d'identité. Nous verrons cela surtout demain. C'est cette approximation d'identité à cette génération, c'est Ishmaël, fils de Hagar. Abraham peut enfanter n'importe qui soit un Ishmaël. Mais Sarah est empêchée d'enfanter jusqu'à ce qu'elle puisse enfanter Yitzhak et pas Ishmaël. Yitzhak, c'est-à-dire celui qui porte le rire au futur, alors qu'Ishmaël, comme nous le verrons demain, est celui qui porte le rire au présent. Nous verrons cela de façon plus précise demain. Il y a donc ce thème très important que les mères, les matrices d'enfantement, sont empêchées d'enfanter jusqu'à ce que cela soit possible et qu'on ne risque pas une approximation. C'est un thème que vous devez déceler dans l'histoire des patriarches. Il y a un livre qui vient de paraître, je n'ai pas encore lu, de Madame Chalier sur les matriarches. C'était pour employer l'expression. Dans l'histoire des matriarches, ce mot me gêne, mais enfin, patriarche aussi, ça me gêne d'ailleurs. Mais on voit très bien de quoi il s'agit. Je n'ai pas lu ce livre, je ne sais pas donc quel est le contenu. C'est un thème très important. Les mères d'Israël sont apparemment, entre guillemets, stériles longtemps. Je pense que, je ne sais pas si nous avons déjà réfléchi ensemble à ce thème, c'est un thème extrêmement important et qui me semble, je dis bien qu'il me semble, c'est une parenthèse, il faudrait étudier cela. Assez en détail, gardons ça dans l'étude privée pour le moment, cette parenthèse, que c'est ce thème qu'a repris la théologie chrétienne pour parler de la virginité de la Vierge. Je ne parle pas de l'Immaculée Conception, qui est encore une toute autre catégorie, mais de la virginité virginale, si j'ose dire, thème de la matrice éternellement vierge et éternellement féconde. Ça a été poussé à la limite dans le thème marial chez les chrétiens. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ou j'explique plus, okay. C'est-à-dire, à la racine, nous avons là, comme pour beaucoup de choses, des « mystères » entre guillemets chrétiens, un thème de l'identité de la famille des patriarches, mais poussé à la limite de la... Je m'excuse du terme, enfin disons, de la conception païenne des mythes. C'est-à-dire que Le miracle de Sarah enfantant à l'âge où elle enfante et dans les circonstances où elle enfante, je vous cite Nachmanide, est un miracle énorme. La Torah n'en parle pas. Alors Nachmanide s'en explique en disant la Torah n'a pas pour objectif de raconter des miracles. Elle n'est pas un livre de merveilleux. S'il est nécessaire pour le récit qu'elle doit nous transmettre concernant l'histoire du salut pour l'humanité de faire allusion, par exemple, au miracle que Moïse a fait, alors elle y fait allusion, mais son objectif, c'est pas de raconter les miracles. Mais si on y réfléchit, Sarah, à l'âge où elle est, enfantant après cette impossibilité d'enfanter et ses promesses répétées, eh bien, il y a là un miracle beaucoup plus grand peut-être que ce qu'on peut imaginer. Est-ce que c'est clair? Mais la tradition juive ne va pas du tout insister là-dessus. Alors qu'il me semble que ce thème, tel qu'on le trouve dans la théologie chrétienne, est, comme pour beaucoup d'autres choses, je le disais, le passage à la limite de la mentalité mythique de ces thèmes de l'identité hébraïque. Est-ce que c'est clair? Vous voyez ce thème de la matrice éternellement vierge et éternellement féconde et qui enfante le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, dans le récit biblique, c'est Israël. Et la controverse, c'est cette inversion des catégories qui devient Dieu le Fils. Là, ça devient théologiquement impossible. Est-ce que c'est clair jusque-là? Top. Bien. Alors, je referme cette parenthèse. Je crois qu'elle était à sa place pour mettre en évidence l'importance de ce thème que vous retrouverez avec Sarah, avec Rivka, avec Rachel, plus tard avec Hannah, la mère du prophète Shmuel. Et le cas particulier de Léa est apparemment un cas particulier, mais ce n'est pas un cas particulier, ça, je veux dire, ça s'étudie. Léa aussi devait être dans ce cas, mais elle a eu le privilège d'économiser ses difficultés d'enfanter, étant donné sa place dans l'histoire des, entre guillemets, matriarches. Mais c'est un thème permanent de l'histoire des toladot, c'est-à-dire des engendrements de l'identité Israël. Or, l'obstacle le plus grand, c'est Rivka. Alors, je vous lis les versets que j'ai sous les yeux, à partir du verset 19 du chapitre 25. « Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham, et voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham holid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. » On s'attendrait tout de suite que la Torah indique les engendrements d'Yitzhak, c'est-à-dire Esaü et Jacob. Mais la Torah revient en arrière. Abraham a engendré Yitzhak. C'est un thème pour lui-même, mais je vous signale déjà qu'il y a là un problème d'exégèse. Voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. On s'attendrait à Abraham, Yitzhak a engendré Esaü et Jacob, et on nous raconterait comment. Plusieurs séries de Midrashim, en particulier un Midrash que je voudrais mettre en évidence. C'est bien Abraham qui avait engendré Yitzhak. Vous entendez la lecture? Parce que Sarah elle-même, je cite le Midrash, Sarah elle-même était stérile longtemps, ce n'est qu'après qu'elle avait été prise chez Abimelech, vous vous rappelez? Un des deux épisodes, une fois chez le pharaon, une fois chez Abimelech, qu'elle a enfanté. Alors tout le monde disait, cet enfant n'est pas l'enfant d'Abraham, c'est l'enfant d'Abimelech. C'est clair? Vous verrez d'ailleurs, Rashi, je pense que Rashi cite ce Midrash dans cette paracha. Je vais vérifier tout de suite, on va le lire. Sira? Oui, Rashi le cite. Les filles chez Ayou Litzane Hador, parce que les moqueurs de la génération, on pourrait dire de notre temps les chansonniers, Omrim disait, mais Abimelech nitavera Sarah, c'est d'Abimelech que Sarah était enceinte, Sheare kamashanim shahata im Abraham, puisque combien d'années elle était avec Abraham, velo nitavera, elle n'a pas été enceinte, et meno par lui, Maasa kajvorhu, qu'est-ce que Dieu a fait, Tsar klastar panav shel Yitzhak, il a formé le visage, on veut dire l'apparence du visage de Yitzhak, Domal et Abraham, ressemblant à Abraham, l'idée est très claire, Abraham et Isaac sont des sosies, ils sont tous les deux tzadikim, nous verrons pourquoi, et Eidou, Hakol, alors tout le monde a pu témoigner, Abraham, Holid et Yitzhak. C'est bien Abraham qui a engendré Yitzhak, Vezemu Shekatav Kan, et c'est ce qui est écrit ici, Yitzhak ben Abraham, Yitzhak était fils d'Abraham, Haya, Shehare, Edut Yesh Abraham, Holid et Yitzhak, et par là il y a un témoignage que c'est Abraham qui a engendré Yitzhak. C'est-à-dire qu'il y a un doute. Est-ce que Yitzhak est bien le fils d'Abraham? Et je pense qu'on peut rattacher cela à un phénomène culturel contemporain qui date déjà depuis assez longtemps, dont un cas particulier, c'est la critique biblique, qui consiste à dire une espèce de fait culturel que je vais essayer de vous décrire. Rien n'est originel, sui generis, en Israël. Tout est emprunté d'ailleurs. Vous avez remarqué cela? Bon, nous en avons un cas particulier dans le Midrash. Il faut affirmer Yitzhak est bien le fils d'Abraham. On vous inventera toujours une source phénicienne de telle ou telle valeur hébraïque. Vous comprenez le... C'est assez important, c'est à relier au fait que lorsque Sarah a enfin enfanté Yitzhak, le verset dit « Henik abanim Sarah ». Sarah a allaité des enfants. Vous vous rappelez de cette note d'exégèse? Elle a un enfant, Yitzhak. Pourquoi le verset dit « Elle a allaité des enfants ». Le Midrash dit « Toutes les princesses venaient lui apporter leur fils pour que Sarah les allaite ». Vous voyez le complément? C'est-à-dire, on accusera Israël de n'avoir rien donné à l'humanité de sui generis. C'est emprunté d'ailleurs, Abimelech. Et alors qu'en fait, c'est Israël qui a allaité les princes de toutes les traditions. Derrière le vocabulaire que j'emploie, vous comprenez de quoi il s'agit. Et nous vivons encore, de notre temps, ce thème d'identité, très difficile d'ailleurs. Un des exemples, c'est la critique biblique. Quelle est l'origine de la critique biblique? Rien n'est sorti d'Israël. Israël n'a reçu aucune révélation. Ce sont des emprunts faits aux traditions de l'Antiquité, du Moyen-Orient de ce temps. C'est clair? Top. Je referme la parenthèse. Mais voici le verset. « Vayi Yitzhak ben Arbaim Shana » et Yitzhak était âgé de 40 ans, encore une indication d'un certain niveau de maturité. Bekarto et Rivka bat Betuel à Arami, lorsqu'il prit Rivka, fille de Betuel l'araméen, mit Padan Aram, de Padan Aram, Achot Lavan, sœur de Laban, à Arami, l'araméen, lo Leisha, pour lui, pour femme. On nous indique que pendant très longtemps, Isaac et Rebecca attendaient de pouvoir enfanter, et cela n'était pas possible. Alors cette accumulation de termes dans le même verset, trois fois, l'identité Aram qui passe par Rivka bloque, c'est clair, cet engendrement. Pourquoi? Encore une fois, du côté d'Abraham, d'Isaac, cet enfant pourrait être Israël, le troisième tzaddik que l'on attend. Abraham, le tzaddik de la Midat HaChesed, de la vertu de charité, Yitzhak, le tzaddik de la vertu de rigueur, de la Midat HaDin, et l'on entend, on attend le tzaddik de l'unité des valeurs qui sera Israël, et il ne peut pas naître. Pourquoi? Parce que cet enfant risque d'être monstrueux. Il risque d'être le tzaddik absolu qui se cherche dans ses engendrements, l'hébreu, restitué, je ne veux pas dire ressuscité, mais restitué, mais en même temps, il serait totalement, par sa descendance originelle de la famille d'Abraham lui-même, l'identité Aram, l'araméen par excellence, mélangé à l'hébreu par excellence, c'est-à-dire à la fois tzaddik, à la fois rachar. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est pourquoi cet enfant ne peut pas naître. Alors il y a une stratégie divine qui va faire naître deux jumeaux pour séparer la difficulté en deux. C'est clair? Top. Nous voyons que dans le verset suivant, vous le verrez lui-même, on nous indique que Isaac priait pour que cet enfant naisse, et Rivka priait pour que cet enfant naisse. Et l'objet de la prière est le même, que cet enfant naisse quand même, peu importe la difficulté, il faut que l'histoire se fasse. Mais le contenu de la prière est différent. C'est-à-dire qu'Isaac est prêt à prendre sur lui le fait que cet enfant de Rivka portant l'hérédité araméenne soit le sien, il s'en occupera. Et c'est un héroïsme énorme, ce qui indique une complaisance pour Ésaü qui va accompagner Isaac jusqu'à la fin de sa vie. Vous avez remarqué? Parce que Ésaü, c'est le fils de Rivka, mais que Isaac, pour lequel Isaac a prié, finalement. Est-ce que c'est clair? Alors que Rivka, elle, priait pour que Isaac ait un fils. C'est-à-dire que, au moins, que ce que Isaac représente ne se perde pas. Comme Sarah, dans son mouvement de générosité, lorsqu'elle a donné Agar à Abraham, au moins que ce que Abraham est ne se perde pas, que ça continue sous la cendre jusqu'à ce qu'une Sarah soit capable de lui donner Isaac. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, quelque chose de très parallèle ici. Rivka prie pour que Isaac ait un fils, un duplicata d'Isaac, mais peu importe. Ça dure à une éternité jusqu'à ce que cet Isaac enfin rencontre une Rivka qui pourrait lui donner Israël. C'est clair? Donc, et c'est pourquoi Rivka aime Jacob, le fils de Isaac, alors que Isaac aime Ésaü, le fils de Rivka. C'était l'objet de leur prière. Je vous lis le verset. C'est le verset 21. Vayertar Yitzhak, l'Hachem, le Nochach Ishto. Et Isaac pria. Et là, nous avons un des 10 termes qui dit la prière, mais le terme le plus fort. C'est une prière qui fouille les lois de la nature pour les bouleverser, pour que ce qu'elle demande puisse être obtenu. Ce terme de Vayertar, on traduit prier, je suppose. Vous avez la traduction française? Implorer. Bon. Le Midrash donne, cette racine donne un terme qui signifie une pelle, qui fouille la terre et la bouleverse. Les Nochachishto. Alors, les Nochachishto peuvent se traduire de deux manières. La traduction matérielle de les Nochach, c'est vis-à-vis de Nochach. Okay? Et la traduction spirituelle serait pour, en faveur de. Ça veut dire, le Midrash explique qu'ils étaient dans la chambre de prière, chacun d'un côté, l'un en face de l'autre, et chacun de son côté priait l'un pour l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure. Car elle était stérile, va y ater l'eau, et Dieu a exaucé la prière de Yitzhak. Vous verrez ce que dit Rachel à ce sujet. La prière de Yitzhak est exaucée parce que c'est elle qui va dénouer le drame qui se noue ici. La prière de Rivka est facile à entendre. Il s'agit que Isaac ait un fils qui serait un comme Isaac, un quasi Isaac, jusque à une occurrence du temps où il rencontrerait une Rivka déjà débarrassée de l'écorce arame, par exemple Ruth à la fin des temps, Ken, déjà débarrassée de l'écorce arame de Lot, alors elle peut être l'ancêtre de David, et à ce moment-là, Israël serait né. Donc, il y a une nécessité d'accélérer l'histoire. Alors c'est la prière de Isaac qui est plus difficile, que cet Israël, handicapé par le problème rivalité intérieure Jacob-Ésaü, naisse quand même. Je m'arrangerai d'Ésaü. Dit Isaac, mais Ésaü l'a trompé. C'est la suite du récit. Vous voyez, le texte dit, c'est la prière d'Isaac qui a été exaucée. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors je reviens maintenant donc au thème général. Vous voyez, cette Klipa Aram, qui en fin de compte va s'ériger en rival impitoyable avec Laban, qui est appelé l'Araméen. C'est le membre de cette famille d'Abraham où il y avait Terah, où il y avait Lot, où il y avait, vous vous rappelez, Haran qui était mort là-bas, où il y avait Nahor, leur ancêtre. Nahor est le père de Bethuel, et, c'est clair, et qui décidément ne veut pas devenir hébreu, veut rester Aram. Cette tentative extraordinaire, c'est les filles de Bethuel, c'est les filles de Laban qui seront les épouses de Jacob. Cette tentative extraordinaire que Jacob soit le gendre neveu de Laban, et cependant cela échoue, ça se cristallise en un refus, en une rivalité inexpiable. Et Laban bikesh la hakor et akol, rappellera le verset, et Laban a cherché à extirper entièrement l'identité Jacob. Voyez donc que cette identité Israël en émergence d'identité est aux prises avec des rivalités qui viennent de sa propre origine. Est-ce que c'est clair? On cite habituellement à ce sujet le verset des prophètes qui dit « Mehalebaïch ou Meharesaïch mimech yetzeu » T'es ceux qui te détruisent et ceux qui te un autre mot pour détruire, c'est presque Haros et Harev. Ceux qui te mettent en ruine sortiront de toi. Ça veut dire te quitteront. C'est une prophétie positive. Tu te seras débarrassé d'eux. Mais on le lit à la lettre, c'est de toi qu'ils sortent. Vous voyez à quoi ça fait allusion. à travers toute notre histoire. Ça sort de ce fond d'identité qui est en question ici, l'hébreu devenu araméen, et lorsqu'il y a l'effort pour l'hébreu de redevenir hébreu du dedans de l'araméen, les pires obstacles viennent de l'araméen. Vous voyez l'ambiguïté apparente de ce drame que nous vivons à travers ces milliers d'années d'histoire et les analogies que j'essaye de vous indiquer vraiment très allusivement, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, alors, si vous voulez, nous allons prendre l'exemple de Lot. Et demain, nous occuperons de l'exemple de Ishmaël rapidement. Alors, reprenons nos versets à partir du chapitre 11. De la fin du chapitre 11. Et je vous donnais brièvement. Vous avez noté les références que je vous ai données à lire ? Oui. Alors, donnez-moi la première. On va la commencer tout de suite. Il me semble que c'était le verset, pardon, du chapitre. Oui. Ah oui, je vous ai dit de relire depuis le verset 27. Alors, verset 27 du chapitre 11. Et voici les engendrements de Terah, le père d'Abraham. Terah, Holid est Abraham. Terah a engendré Abraham, et Nahor, et Haran. Terah avait trois fils, on les a cités. Et Haran, Holid et Lot. Et Haran avait engendré Lot, qui est donc petit-fils de Terah, fils de Haran, qui lui s'épuise et expire dans l'exil de Ur-Kasdim, mais il a laissé un fils qui veut revenir avec Abraham. C'est clair ? Le voilà la première fois qu'on le cite. Vayamut Haran al-Pene Terah, et Haran mourut devant Terah, Abib son père, Beretz Bolasto, dans le pays qui était son pays natal. Je crois que la dernière fois, nous aurons une petite parenthèse importante. Dans ce contexte, on ne peut pas traduire Moledet par la patrie dans le sens habituel de ce terme pour parler de la famille des Hébreux à Ur-Kasdim. C'est leur terre natale, là où ils sont nés, et non pas leur patrie. Leur patrie, dans le sens simple en français, c'était le pays de Canaan. Mais ils sont nés dans l'exil de Ur-Kasdim. Est-ce que c'est clair ? Pour tout un chacun, je pense dans cette salle, il doit y en avoir plusieurs, qui sont citoyens français, par exemple, et on leur demanderait quelle est votre patrie, ils diraient la France, alors qu'ils sont nés sur un autre continent. Par exemple, moi, en Afrique. Vous voyez à peu près le problème. Donc, bon, la question ne se pose pas comme ça, mais vous comprenez. Mais Ur-Kasdim. Donc, Eretz Molato, c'est sa terre natale, c'est pas sa patrie. Ur-Kasdim. Baïkar Abraham ben Nahor laem Nashim. Abraham et Nahor, les deux frères restés en vie, Haran étant mort, ont pris des femmes. On sait qu'elles sont sœurs, c'est Sarai. Veshem Eshet Nahor, Sarai pour Abraham. Et le nom de la femme de Nahor, c'est Milka, qui enfantera précisément les filles qu'épouseront la descendance d'Abraham jusqu'au moment où la naissance d'Israël est possible. C'est clair jusque-là ? Top. Fille de Haran, Abi Milka, Abi Iska, je passe. Vatei Sarai Akara, voilà comment commence le récit. Abraham est marié et Sarai ne peut enfanter. On comprend l'ordre de la difficulté. Tant qu'on risque de n'engendrer qu'un araméen, il y a obstacle. Dieu empêche l'engendrement jusqu'à ce que la matrice soit suffisamment épurée pour être le véhicule d'engendrement de ce qui se cherche là, l'identité hébraïque enfouie dans l'ancestralité d'Abraham, hébreu devenu araméen, dans la civilisation d'Ur-Kasdim, que cet engendrement soit possible. Et effectivement, nous verrons que les signes de la mutation d'identité apparaissent toujours d'abord chez les femmes, chez les mères. C'est clair. En particulier, je reviens par la bande, à ce qui se passera à la sortie d'Égypte, où l'importance considérable de la mère et de la sœur de Moïse vont nous être indiquées. Si la mutation d'identité a été possible, c'est grâce à elles, les sages-femmes d'Israël. Mais c'est le thème des Nashim Tzadkaniot, des femmes justes, dont nous voyons la réapparition à chaque étape de mutation d'identité de l'histoire d'Israël. En particulier, les femmes de la génération du désert, mais surtout les femmes au niveau de l'histoire des patriarches. C'est à propos de Sarah qu'on apprend que lorsqu'une femme est prophétesse, sa prophétie est plus forte que celle des hommes. Rappelez-moi que nous étudions cela demain, je ne veux pas ouvrir la parenthèse ici. C'est Sarah qui intervient pour dire l'avenir d'Abraham passera par Isaac et pas par Ishmaël. Ishmaël en est irrité, pas irrité, je cherche un mot plus, et en est attristé. Il va garder une complaisance pour Ishmaël très parallèle à la complaisance de Isaac pour Ésaü, jusqu'à la fin de sa vie. Comme je dis souvent, et ce n'est pas une blague, si Abraham était notre contemporain, il serait certainement Shalom Arshav. Okay. C'est-à-dire une complaisance pour Ishmaël. Alors vous avez compris qui c'est Shalom Arshav. Ce sont des Israéliens qui se prennent pour Abraham. Bon, on étudiera ça un peu demain un peu plus en détail. Je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir. Mais, ainsi, à chaque génération, rappelez-moi ce que je disais immédiatement avant, à propos d'Ishmaël. Oui, ce que je disais juste avant cela. Oui, c'est Sarah qui intervient pour dire à Abraham, ça passera par Isaac et pas par Ishmaël. C'est un thème qu'on étudiera un peu en détail demain. Elle voit le rire au futur dans Isaac, et c'est son nom. Elle voit le rire au présent chez Ishmaël, et c'est son nom. Elle dit, c'est parler. C'est un thème extrêmement important. Croyez pas que la querelle, une querelle aussi inexpiable, aussi énorme, a commencé par le fait que Sarah a vu un enfant rire dans sa maison. Alors elle a dit, Abraham, dehors, pas du tout. C'est beaucoup plus important que ça. C'est deux fils d'Abraham qui sont à la fois analogues et radicalement différents. L'un, encore une fois, et nous verrons que c'est la théologie d'Abraham qui est en jeu dans ces deux stratégies d'identité. L'un qui porte le rire au futur, c'est Isaac. L'autre qui porte le rire au présent, c'est Ishmaël. Et Sarah intervient pour dire, c'est parler. Et jusqu'à la fin des temps, nous vivons ce problème. De quoi s'agit-il? On va commencer à l'étudier demain. Et à ce propos, Dieu dit à Abraham, tout ce que te dit Sarah, écoute sa voix, Shemar Bekola. Et là, le Talmud intervient, on apprend que Sarah était donc plus prophète qu'Abraham. Elle a le sens prophétique de l'histoire plus qu'Abraham. Alors, ce n'est pas tellement étonnant. C'est elle qui engendre, elle est celle qui engendre l'enfant attendu. Elle l'a conçu du père, mais elle le connaît plus que le père. Elle sait quel est son enfant. C'est d'autant plus visible avec Isaac et Rebecca, Jacob et Ésaü, j'y reviens tout de suite. Et alors je vous donnerai d'ailleurs tout de suite, vous y réfléchirez jusqu'à demain, la manière dont on le comprend d'après une Mishnah de Pirkei Avot. La Mishnah de Pirkei Avot qui dit « Ezehu hacham aroe et anolad ». On cherche la définition du sage dans les Pirkei Avot. De qui on peut dire qu'il est sage? Le Pirkei Avot répond, Aro et Anolad, celui qui voit à l'avance les conséquences. C'est comme ça qu'on traduit. Mais traduisez littéralement, Aro et Anolad, celui qui voit ce qui est enfanté. Qui voit ce qui est enfanté? C'est celle qui enfante. C'est la sage femme, littéralement. La femme sage. Vous voyez? Donc, vous l'entendez en hébreu? Bon. Alors, on comprend effectivement que la névoa, la prophétie, c'est la névoie des Toladot. C'est la névoie de ce qui s'engendre dans l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'engendre dans l'histoire? Ce n'est pas les événements. C'est la modification du sujet humain qui est le sujet des événements. Et alors, les prophètes voient par quelle manière d'être homme passe l'avenir de l'humanité. Mais qui voit plus chez les prophètes? Les prophétesses. Pourquoi? Parce qu'elles sont femmes et qu'elles savent comprendre mieux l'enfant que le père. Ça va jusque-là? On reverra ça un peu plus en détail demain, mais réfléchissez jusque-là. D'où l'importance considérable de cette apparition au début de l'Exode de la mère et de la femme, Esther, et de la sœur de Moïse. Okay. Et de nouveau, le fait que Myriam, c'est le nom que la théologie chrétienne donnera à Marie, dans le thème que j'ai indiqué tout à l'heure, qui se branche là-dessus. Vous voyez que les théologiens chrétiens auraient intérêt à étudier leur mystère avec des talmudistes. Et je reviens au... ils y comprendraient des choses profondes. Je crois que ce ne serait pas nécessaire de comment dire, d'abandonner leur foi, mais de la comprendre en quoi ils étaient censés croire à l'origine. Que l'engendrement du Fils de l'homme se passe dans une matrice qui est la société d'Israël. Ça a été mythologisé dans le récit de la Passion. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Bien. Mais je crois que nous sommes déjà dans un temps contemporain où beaucoup de consciences chrétiennes commencent à pressentir qu'il s'agit de quelque chose de cet ordre. Pour le moment, ils sont sur deux registres parallèles. Le récit de leur foi, comme leurs théologiens le leur ont donné, et d'autre part, leur relation directe avec Israël, où perçoivent que c'est ça qui s'y passe, mais sans encore faire le lien. Est-ce que c'est clair ce que je... Bon. Alors, refermons la parenthèse. Enfin, ce sont certainement des thèmes qui seront élucidés sur la place publique dans deux, trois générations, de façon comme si ça va de soi. Mais pour le moment, vous en avez un petit peu le pressentiment, si j'ose. Et, pardon.
Je veux dire, un dialogue à huis clos et à révéler dans 20 ans entre Léon Scalzi et le cardinal Lessigé serait de la plus haute.
Je suis persuadé qu'il vous a chargé de rien. Oui. Mais je ne crois pas que ce serait avec lui, en tout cas d'après ce que je lis de lui, je ne crois pas qu'il... Ce serait plutôt avec des chrétiens d'origine. Je crois que en tant que cardinal, il a vraiment un péché originel. Il est d'origine juive. Je crois pas que ça serait avec lui.
Moi, j'aurais une question à vous poser.
Oui.
Certains disent que Sarah.
Que? Non, pas certains, le Midrash
dit. Le Midrash dit, alors, Abraham aurait épousé sa
sœur. Sa demi-sœur.
Sa demi-sœur.
Et il le dit lui-même, absolument. Il le dit lui-même au pharaon.
C'est ça qui fait envahir au pharaon et à Abimelech.
Absolument, absolument. C'est important de voir cela. Ce ne sera pas ce séminaire qu'on étudiera cela, mais Abraham commence le tikkun de la, du premier engendrement. Les engendrements de l'humanité ont commencé par un inceste, puisque Chava et Adam ont été créés ensemble. Ils sont jumeaux, Sarah et Adam et Chava, on ne comprend pas leur naissance. Ça ressemble à une opération chirurgicale dont nous n'avons aucune idée. Oui, tout y est. L'anesthésie, tardéma, tombe en anesthésie, opération chirurgicale, timidement, l'être qui était à son côté, il le voit face à face. C'est un des secrets de la Bible. Okay? Un jour, ça sera aussi dans les bandes dessinées. Bon. Et puis, le Zohar a prévu qu'un jour, les secrets citerait Torah, les secrets de la Torah, seront sur la bouche des petits-enfants. Bon, ça commence un peu, Ken. Pour le moment, les petits-enfants, ce sont de docs, professeurs d'université qui font des thèses sur le Zohar, mais ça sera un jour des vrais petits-enfants. Et puis, Caïn a épousé sa jumelle, et Abel a épousé sa jumelle, dit le Midrash. Ils ont été créés à l'image du premier homme qui est créé homme et femme. Et donc, l'histoire de l'humanité commence par un inceste. On a épousé sa sœur. Okay? C'est clair. Alors, la rédemption de cet inceste de l'origine de l'histoire de l'humanité s'est basée sur un des versets, « Olam hesed ibané », le monde sera construit sur la grâce, sur la charité. Mais ceux qui ont écouté l'étude du Talmud de vendredi, c'est que le mot de Hesed signifie un crime d'amour, c'est-à-dire l'inceste. Vous vous rappelez de cela ? Je ne sais pas si je vous l'ai indiqué de façon si fine. Olam Hesed Ibané, le monde repose sur la charité, c'est la lecture pshat. C'est par un acte de charité que Dieu a créé le monde. Donner l'être à autrui, c'est la charité par excellence. Okay? Nous n'avons que des charités d'entretien, entretenir l'être d'autrui. Mais donner l'être à autrui, c'est l'acte charitable par excellence. C'est-à-dire, l'histoire du monde, d'après le récit biblique, commence par l'acte moral essentiel. Donner l'être à autrui. La création. Et non pas par un mécanisme impersonnel, incompréhensible, dans l'explication des théologiens, disons, dits rationalistes. C'est par un acte de volonté d'engendrement, est à l'origine des enchantements, donner être à autrui, que l'histoire du monde commence. Bien. Et on voit que dans les grandes dynasties, je vous cite le Midrash, mais on pourrait citer après enquête les historiens des religions de l'Antiquité, dans les grandes dynasties, les dynasties royales, on s'épousait entre frères et sœurs pour garder le sang pur, le sang bleu, comme disaient les rois. Et c'était le cas chez les Égyptiens. Au temps des pharaons, le pharaon épousait sa sœur. C'est-à-dire, de sa sœur, il faisait sa femme. Alors qu'avec l'histoire des patriarches, le tikkun commence. De sa femme, on fait sa sœur. Mais il y a une base. Abraham dira, c'est ce que vous avez cité, dans tous les cas, elle est ma sœur. Même si tu ne comprends pas au niveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Abraham qui parle au pharaon ou à Abimelech. Qu'est-ce que ça veut dire que ma femme, c'est ma sœur? Dans tous les cas, il y a une base. Elle est sœur par mon père, pas par ma mère. Vous voyez? C'est ce que je voulais citer. Effectivement, et c'est à propos de Iska. Oui, c'est-à-dire, ce thème se trouve trois fois. Il se trouve deux fois chez Abraham, et il réussit chez Isaac. Et vous me rappellerez votre question demain, si nous y arrivons. Lorsque cela réussit chez Isaac, qu'elle dit, il est son frère, et pas seulement que lui dit que tu es ma sœur, alors on voit Isaac rire au présent. Et Abimelech le voit rire, alors il lui dit, alors c'est ta femme? Mais tu m'as dit que c'était ma sœur. On verra ça demain, ok? Top. Il y a un moment, comme je dis souvent, il y a un moment de fin des temps quand ça réussit. Alors Isaac rit. C'est extraordinaire. Isaac rit au présent. Et l'histoire recommence, on a lancé un message. Un des signes de la fin des temps, c'est quand les époux sont frères et sœurs. Voilà, gardez ça dans la mémoire. Okay? Et il est indéniable que ça se cherche dans la civilisation contemporaine. Ce dialogue impossible entre hommes et femmes, et qui est bloqué, parce qu'on ne sait pas à quoi mène un mariage réussi. Et bien, il mène à ça. Okay? À l'histoire des patriarches. Dis que tu es ma sœur. Donc, je crois que les époux de type Philémon et Baucis, c'est bien eux, Ken, ont déjà montré cela dans la littérature mondiale. Ken. Quand des époux ont vécu l'histoire d'un couple réussi, ils commencent à se ressembler comme frères et sœurs. Vous avez remarqué ça, Ken? Donc je referme la parenthèse, et voilà que nous avons le verset 31. Vaïkar Terach et Abraham Beno, et Terach prit Abraham son fils, Veklod ben Haran ben Beno, et la précision du texte, on va s'occuper du cheminement parallèle de Lot et d'Abraham, jusqu'au moment où ils doivent se séparer, et pourquoi. Lot, fils de Haran, fils de son fils, son petit-fils de Terach, Vet Sarai Kalato, et Sarai Sabru, et chez Abraham Beno, femme de Abraham son fils, Payetse Uitam et Ur Kasdim, ils sortirent avec eux de Ur Kasdim. La Lechet Artsaknaan, j'ai lu ce texte pour un autre objet, pour vous indiquer, et nous y sommes, que de leur propre initiative, ces Hébreux devenus Araméens au Kasdim rentrent chez eux au moment du diagnostic que c'est une civilisation impossible qui a échoué. Le Ur Kasdim, la fournaise d'Ur Kasdim, je ne reprends plus ces analogies, c'est clair. Ils arrivent à Haran, qui est sur la frontière, Vayeshevusham, et ils s'installèrent là-bas. À Haran, où on va retrouver la famille de Nahor au moment du mariage de Jacob avec Rachel. C'est clair? Vous voyez toutes ces étapes de l'identité, j'allais dire juive, à tous les niveaux du retour de l'exil. Haran reste dans l'exil, meurt dans l'exil, Abraham et Lot partent ensemble, mais Lot se sépare, et Terach reste à la frontière, et puis Nahor est resté dans l'exil d'Ur Kasdim. Il garde dans cette ambiguïté de l'identité araméenne la capacité de donner cette possibilité au fils, petit-fils d'Abraham, de trouver femme pour la suite de l'histoire. C'est clair? Voilà, je crois que depuis l'origine, nous sommes accompagnés jusqu'à la fin des temps de ce problème, de la difficulté de ne plus être araméen tout en l'étant encore. La difficulté de toujours être hébreu sans l'être encore. Et c'est notre histoire. Est-ce que c'est clair jusque-là?
Non, rien, ça, vous savez très bien. C'est juste si on a le Shabbat du présent. Par conséquent, voilà, je peux le Shabbat qu'à. Alors, troisième dimension, c'est le Rav Yosef Dov Soloveitchik, qui, comme je l'ai dit, a... Alors, le Rav Dov Soloveitchik, qui est un philosophe existentialiste, en même temps qu'un grand penseur juif, lui, a fait une série de cours qui sont restés très célèbres et que le professeur...